tout le monde y passe.
Jusqu'à 11h sur la première.
Mais à présent, il est temps de recevoir nos nouveaux invités. Bonjour, Eric de Starck et Emmanuel de Koning.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, oui.
En pleine représentation en ce moment d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Les lois fondamentales de la stupidité humaine ». Elle se joue au Théâtre des Martyrs jusqu'au 5 janvier prochain. J'y suis allé il y a quelques jours. Je me suis énormément amusé, j'ai ri. Mais comme j'avais finalement plus ri depuis assez longtemps au théâtre. Dedans. Donc voilà, je vous félicite. Et
merci.
Puis ce texte au là d'être hilarant et absurde est aussi un texte de fond qui parle de la bêtise humaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu présenter ? Donc nous avons deux scientifiques qui vont dresser une espèce de cartographie de la société, mais surtout d'un groupuscule extrêmement dangereux qui s'appelle les gens stupides.
Absolument. En fait, c'est, j'y vais ?
Oui, vas-y.
En fait, c'est tiré d'un livre tout à fait sérieux, entre guillemets, en tout cas de quelqu'un de très sérieux, qui est peu du tout un écrivain de théâtre, ni même un écrivain de littérature.
Puisque c'est un économiste, un historien de l'économie.
C'est un historien de l'économie, éminent historien de l'économie, très connu dans son domaine, enfin qui a vraiment fait des recherches tout à fait très précises et pointues dans le domaine de l'histoire de l'économie, et qui a écrit c'est un cours qu'il a donné, qui a été retranscrit sur la stupidité humaine. Donc il a fait un vrai travail pour pouvoir définir quelle était la stupidité humaine. Donc il est parti du principe que dans toute relation humaine, chaque action que nous commettons a un impact positif ou négatif sur l'autre. Hein. Et donc, il a défini la stupidité comme étant une action où il y a un impact négatif sur l'autre et même un impact négatif sur soi-même.
Mmh.
Et finalement, il résume le problème de l'humanité par le fait que finalement, c'est pas tellement une question d'idéologie, mais finalement, c'est plus une question de bon sens, à savoir que une société en déclin est une société qui simplement laisse trop de place aux gens stupides. Voilà.
Eric, vous êtes d'accord avec l'explication ?
Tout à fait. Notre société est divisée en quatre catégories. Les stupides, les crétins, les imbéciles, les intelligents et les
bandits.
Non, ce qui est terrible dans son texte, c'est qu'il nous apprend quelque chose sur la société. Par exemple, si je vous vole votre voiture, Jérôme, je pars avec votre voiture, eh bien, en fait, pour la société, c'est pas grave. Parce que j'ai pris votre voiture, vous allez en racheter une autre. Moi, j'ai un bien, je vais dépenser de l'argent pour mettre de l'essence ou la faire entretenir. En fait, la société dans son ensemble s'en porte ni mieux ni plus mal. Mm-hmm. Tout va bien. Le crétin, c'est celui qui va vous voler la voiture et qui va en plus se planter avec. Et donc il va, par exemple, parce qu'il a bu un coup, il va la planter dans l'arbre. Donc vous n'avez plus de voiture.
Là, tout le monde y perd.
Et voilà, et je suis perdant aussi. C'est ces gens-là qui nous font perdre du temps. Et quand il met ça à l'échelle de l'économie mondiale ou du système, par exemple, qu'on voudrait venir en aide aux pays en voie de développement, on comprend évidemment qu'on a affaire à des gens extrêmement dangereux, et d'où le but de notre mission, d'éradiquer cette race de gens stupides.
Voilà, alors personne n'est épargné, bien évidemment, tous les niveaux de la société, toutes les classes sociales sont bien sûr visées par la stupidité. Mais vous disiez, Emmanuel et Eric, tout à l'heure, c'est un bouquin très sérieux donné par cet auteur qui s'appelle Carlo Mario Cipolla.
Absolument.
Qui est italien. C'est un cours sérieux. Comment, à partir de ce petit livre, qui est un livre de 60 pages,
tout
qui est un best-seller en Italie d'ailleurs, très sérieux, comment est-ce qu'on arrive à une pièce de théâtre aussi délicieusement absurde ?
Ben, c'est 6 semaines de travail à la table à se demander mais comment on va faire. Donc Emmanuel découvre le texte et puis nous le propose à Mark Waze pour la mise en scène et à moi pour le jeu. Et il nous dit venez, venez. Et nous on dit oui, oui. Et puis après voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et donc c'est vrai que c'est très gai parce que c'est un travail où on est resté vraiment longtemps à la table à se demander mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte. On comprenait bien ce qu'on avait envie d'en faire, on savait où on voulait aller, mais comment y arriver. Et puis est venue l'idée d'écrire nous-mêmes les démonstrations. Donc, c'est-à-dire que Dominique Breda nous a rejoint aussi pour un texte, mais Mark Waze, Emmanuel et moi, on a écrit les petites séquences démonstrations qui illustrent.
Donc, expliquer, c'est qu'il y a des lois fondamentales de la stupidité humaine. Il y en a 5 qui sont énoncées très sérieusement, donc par Carlo Mario Cipolla. Et vous, chaque fois, vous êtes en scientifique et vous lancez ce très beau mot. Démonstration. Et vous mettez à l'épreuve ce qu'il vous dit, c'est ça?
Voilà.
Absolument.
Enfin, on essaye.
Par exemple.
Ben par exemple, chacun sous-estime toujours le nombre d'individus stupides existants dans le monde et on va illustrer cette merveilleuse loi fondamentale en montrant dans une séquence que, en effet, on sous-estime le nombre d'individus stupides qui règnent.
Comment vous le faites expliquer à nos auditeurs?
Bah, par exemple, il y a une séquence chez le fleuriste, par exemple. Où, tout d'un coup, chez le fleuriste, on se retrouve dans une logique où il y a le client qui vient pour acheter du muguet.
J'ai presque envie de vous demander de jouer un petit bout hein, de cette séquence parce qu'elle est juste hilarante. Vous avez déjà fait ça en radio ? Ils sourient tous les deux, ils sont très contents.
Non, oui.
Vas-y.
Alors je fais le bruit de la porte d'entrée.
Oui.
Ding dong.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je voudrais un brin de muguet.
Ah, ça tombe bien, nous sommes le 1er mai.
Et alors ?
C'est la fête du muguet.
Quoi ?
Le 1er mai.
Et alors ?
Et c'est pour ça qu'on offre du muguet.
Ah non, pas du tout, c'est pour ma femme.
Oui, bien sûr, mais vous lui offrez parce que c'est la fête du muguet.
Non, parce que c'est ma femme.
Oui, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que le 1er mai, les femmes, toutes les femmes aiment qu'on leur offre du muguet.
Vous connaissez pas ma femme ?
Non, bien sûr, mais enfin, ça me semblait normal.
Quoi ?
Bah, un 1er mai, un type comme ça qui rentre chez un fleuriste et qui demande du muguet pour sa femme, alors je le disais comme ça.
Comme ça quoi ?
Que c'était pour la fête du muguet.
Non, c'est pour ma femme.
Oui, bien sûr. D'accord. Alors, que désirez-vous comme muguet ?
Oh ben, mettez-moi un bon bouquet. Tiens, ceux-là, par exemple, avec les longues tiges et les picots. Mettez-moi en 20.
Lesquels ?
Ceux-là, là.
Non, mais ça, ce sont des roses.
Ah ben, c'est parfait. Mettez-moi 20 muguets roses.
Non, je dis, ça, ce sont des roses.
Oui, je vois bien que c'est la couleur rose.
Non, c'est pas du muguet, ce sont des roses.
Oui, roses.
Voilà,
et
ça
continue
comme ça pendant des minutes et des minutes. Et donc, on entend bien, il y a cette espèce de jubilation en tant que comédien de pouvoir jouer et démontrer cette bêtise, cette stupidité et sortir d'un théâtre quelquefois austère.
Oui, mais en fait, ce qui nous intéressait, c'était aussi la dimension clownesque. C'est-à-dire qu'on avait un texte avec quand même un certain décalage, mais en même temps un texte avec vraiment du fond, avec quelque chose qui disait quelque chose, avec une vraie parole. Et notre envie, c'était vraiment d'utiliser cette matière pour en faire quelque chose de clownesque. Donc, quelque chose qui allait nous permettre de rencontrer, en fait, le public. Parce que le clown permet ça, hein. Le clown, c'est l'essence même du théâtre, dans la mesure où le clown est curieux de tout, est attentif à tout, joue avec tout ce qui existe, est pleinement vivant. Et donc, ça permettait à la fois d'avoir un spectacle où on était quand même porteur d'une parole, mais aussi de pouvoir vraiment rentrer de rencontrer vraiment le public, de se rencontrer nous aussi et d'être dans une dimension de jeu qui est de l'ordre du flottant, du dangereux, de l'imprévisible. Tous les soirs, c'est très très différent. Et donc ça, c'est très très jouissif à la fois pour nous et puis on l'espère aussi évidemment pour les gens. Mais donc ça prend sens parce qu'on rencontre vraiment les gens dans ce spectacle. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir rencontrer les gens au travers d'une parole. Voilà.
Oui, ce qui est formidable en fait dans un texte comme celui-ci, c'est qu'on sent chez les spectateurs qu'ils reconnaissent des situations connues, d'être face à l'administration, face à un système, et on se trouve coincé dans la vie de tous les jours par des gens stupides. Moi j'aime à me raconter que Monsieur Cipolla, un jour a pété un plomb, en se disant « mais j'en peux plus, ce sont les gens stupides qui nous bloquent et je vais vous l'expliquer ». Et il l'explique mathématiquement parce qu'il peut pas le faire autrement. C'est vraiment une démonstration scientifique. Et il n'y a pas de faille. En fait, le texte est absurde, mais son raisonnement ne l'est pas tellement. C'est ça le problème.
Les lois fondamentales sont tout à fait crédibles et solides.
Mais on en voit tous les jours.
Oui.
Enfin, je veux dire, des exemples
de
stupidité, on en voit tous les jours. Encore récemment, Madame de Koning, mon homonyme, qui sort sa nouvelle réglementation pour les nouveaux artistes. Enfin, ça concerne notre corporation, mais pour les jeunes qui, à partir du 1er janvier, pourront quasiment plus accéder à un statut d'artiste. Et donc, à long terme, c'est une vraie catastrophe pour la société. Tant d'un point de vue économique que d'un point de vue intellectuel et même culturel. Voilà. Il y a des tas d'exemples. Alors, évidemment, on ne s'y penche pas toujours, peut-être pas assez, parce qu'on ne peut peut-être pas toujours assez bien dénoncer la stupidité des choses.
Le micro est ouvert.
Mais... Oui, enfin voilà, on a des exemples tous les jours. Et on en parle dans le spectacle. On parle de l'austérité ou de faire passer d'abord une population, de faire passer d'abord la santé d'un État avant la santé de sa population. Bah, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant de se poser les questions-là selon ce fameux schéma de Carlo Cipolla.
Alors, on continue de parler avec Emmanuel de Koning et Eric de Starck de cette très très belle pièce de théâtre qui s'appelle Les lois fondamentales de la stupidité humaine. Et Emmanuel, vous parliez d'une homonyme qui pose problème pour l'instant à pas mal d'acteurs.
Absolument.
Il y a un passage de la pièce qui parle de ce que c'est d'être acteur et de la vision qu'a la société sur votre travail et sur vous.
Mais avant de parler des artistes, ça pourrait être n'importe quel métier. Hein. Je veux dire, le lieu commun, par exemple, c'est les profs. Hein. Les gens disent toujours, oh, quand même, être prof, c'est génial. Des vacances à Noël, des vacances à Pâques, et puis 2 mois de vacances. On oublie que c'est le métier où il y a le plus de dépression. Enfin, je veux dire qu'on a des enfants pendant toute la journée. S'ils n'avaient pas les vacances, je crois qu'ils pèteraient.
C'est compliqué, bien sûr.
Mais c'est vrai que les acteurs...
Qu'est-ce qu'on dit sur le métier d'acteur dans cette pièce ?
C'est Emmanuel qui a écrit la séquence, donc c'est assez drôle, parce que c'est du vécu pour lui. Mm-hmm. Mais raconte.
Non, mais oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on on cherchait dans le travail les situations dans lesquelles nous, on avait été confrontés à des gens... stupides, ou en tout cas à des gens qui nous agressaient comme ça sans raison alors qu'on leur avait rien fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il nous arrive parfois, enfin bon, là on en a fait un sketch, donc c'est pas non plus d'un réalisme. Mais enfin, quand même, ça.
Mais pas loin. Hein.
Ça sent quand même le vécu.
Ça se passe pendant
en effet, cette fameuse question qu'on nous pose tout le temps quand on dit qu'est-ce que vous faites comme métier ? On est comédien, mais non, mais comme métier, vous faites quoi ?
Votre vrai métier.
Théâtre, enfin voilà. Donc, c'est, on est souvent confronté à des gens qui considèrent que le théâtre, bon, c'est quelque chose de très rigolo, de très amusant, mais c'est pas un vrai métier. Alors, moi, je leur réponds souvent qu'en effet, c'est quelque chose de très rigolo et de très amusant, mais c'est aussi, en fait, un vrai métier. Et c'est même une vraie économie, hein. C'est vrai, c'est vraiment un métier qui peut rapporter de l'argent, hein, à la société, qui peut,
générer de l'emploi.
Qui peut générer de l'emploi. Enfin, oui. Qui est une économie qui n'est même pas, qu'on ne peut même pas, amener en Chine ou en Inde, puisque, forcément, elle se fait, elle est locale.
Elle est locale, hein, et elle est, oui, elle est en direct, oui.
Elle est locale et elle est rentable, voilà. Donc, c'est vrai que moi, je défends assez bien cette idée-là, puisque elle est quand même fortement remise en question au jour d'aujourd'hui, hein, que le théâtre serait quelque chose qui coûte, alors que c'est faux.
Vous êtes en colère tous les deux contre, pour être plus sérieux, vous êtes en colère tous les deux contre la manière dont les différents gouvernements considère votre travail et l'accès, notamment, hein, c'est la grande question, au statut d'artiste.
Ah, mais oui.
Enfin, c'est une colère calme parce que on le sait. C'est par exemple en période de crise, on sait déjà quand on annonce la crise, moi je dis ok, ça va, on va devoir gérer les budgets plus petits. On sait qu'on sera les premiers à trinquer. Il y a des vieilles règles qui disent comme ça, c'est vrai qu'en temps de guerre, le boulanger continue à faire du pain, le boucher continue à abattre des bêtes et faire de la viande. Nous on continue à faire du théâtre, c'est comme ça. Et ça a toujours existé depuis toujours. Ce qui est négligeable dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'en effet, on a souvent un spectateur qui nous dit mais c'est quoi votre vrai métier ? On a l'impression que les ministres nous disent la même chose. On dit mais en fait, c'est quoi votre vrai métier ? Et vous dites mais vous savez, en Belgique, la Belgique est le plus grand producteur au monde de théâtre pour enfants. Là, on est en plein festival Noël au théâtre. Nous sommes les plus grands producteurs au monde de théâtre pour enfants. Et par exemple, si on prend l'économie du théâtre pour enfants, c'est génial. Les salles sont toujours pleines. On l'exporte, justement, on disait, si, on exporte beaucoup. Mm-hmm. On exporte partout. On va jusqu'au Japon, on va en Chine.
Tout à fait. Les gens le savent très peu. Hein.
Et les gens ne le savent pas. C'est des emplois. Ça ne pose pas de problème, la nouvelle législation qu'elle a posée, par exemple, pour les gens de théâtre pour enfants. Mais le problème, c'est qu'ils n'y connaissent rien. C'est qu'il y a une sélection de théâtre pour enfants parce qu'on dit.
Mais comment est-ce que vous expliquez une telle ignorance par rapport à votre métier ?
Mais c'est parce qu'on veut mettre des étiquettes. C'est tout simple. On voudrait bien que les artistes fassent tous la même chose et à la même heure, de préférence. Mais aller dire c'est une trapéziste, un fil de ferriste, un musicien, un danseur. En fait, on voudrait les faire rentrer dans une case. Et bien sûr que ça ne rentre pas, par définition. On ne sait pas mettre un artiste dans une case, on ne sait pas mettre un peintre dans un cadre, il va peindre sur le mur à côté. Donc c'est-à-dire que c'est une réflexion de base qui manque, en fait, mais qui part surtout de est-ce qu'on a besoin de la culture dans notre société ? Et évidemment, parce qu'ils disent, voilà, les artistes devront faire ça, ça, ça pour devenir artistes. Mais en fait, on ne les empêchera pas d'être artistes. On les empêchera d'avoir droit à ce à quoi ils vont cotiser. C'est ça le problème.
Mm-hmm. Il y a une logique qui est de penser que la culture coûte. Mmh. Et on est en temps de crise, et donc il faut faire des économies. Et donc on se dit, mais les artistes nous coûtent de l'argent, et donc on est dans une logique où maintenant on va empêcher des jeunes à accéder à un statut d'artiste. Un statut d'artiste qui n'est jamais qu'un statut adapté, un statut précaire, cela dit en passant, mais adapté à leur manière de travailler, à savoir des emplois à durée indéterminée, avec plusieurs employeurs différents. Et donc de permettre d'avoir entre ces différents emplois des ponts. Alors en effet, c'est payé en l'occurrence par le chômage, ce n'est pas pour ça que ce sont des chômeurs, c'est un statut particulier, comme il y a un statut pour les marins pêcheurs ou comme il y a un statut
pour les bûcherons.
Voilà, exactement. Et donc cette logique de penser que en diminuant le nombre d'artistes réels, j'entends bien du nombre d'artistes réels, je ne parle pas des faux artistes qui ont été placés là par des sociétés comme Smart, pour ne pas la citer, mais je veux dire des artistes réels, des gens qui réellement, dont c'est le métier, les empêcher d'accéder à ce statut, c'est empêcher un avenir pour notre culture. C'est empêcher un développement culturel chez nous à terme. Parce que la nouvelle loi, c'est vraiment rendre quasiment impossible l'accès au statut d'artiste pour les jeunes artistes. C'est très, 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 très grave ce qui est en train de se passer. Il y a un combat qui se mène. On espère vraiment qu'il va aboutir. Il y a un combat parallèle avec les techniciens où on ne considère pas les techniciens comme des travailleurs du spectacle, comme des gens qui ont les mêmes conditions de travail que les artistes. C'est très grave aussi. Voilà. Et donc, ils sont en train de mettre à mal. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ? J'espère que non. J'espère vraiment que c'est de l'ignorance. encore que, comme dirait Alexandre von Siever, ce serait peut-être encore plus grave. Mais en tout cas, j'espère que c'est de l'ignorance, parce que je pense que les conséquences sont graves et qu'à terme, ils mettent vraiment à mal la culture dans notre pays. Et la culture, elle est très importante d'un point de vue intellectuel, aussi pour éviter les clivages. Enfin, je veux dire, en temps de crise, on sait bien que les extrêmes ont tendance à proliférer. Donc la culture est peut-être aussi une parole libre qui permet parfois de lutter contre ça. Mais aussi, et alors à chaque fois, je remets le doigt dessus, et moi je peux montrer les comptes de ma compagnie pour rapporter de l'argent. Vous savez, moi, quand je touche une subvention, il y a à peu de choses près deux, voire trois fois plus d'argent que la subvention que j'ai reçue, que je rends en charge patronale, en ONSS, donc que je rends à la communauté. Donc,
vous fabriquez des richesses.
Réellement de la richesse. C'est très, très important à dire. Enfin bon, là, je m'emporte un peu là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et enfin, c'est très gentil de nous donner l'occasion de dire ça.
Mais il y a une chose, c'est que là, ce qui nous énerve vraiment, c'est, enfin, moi, qui me fait monter, c'est le fait que cette nouvelle législation va renforcer la puissance de ces sociétés intermédiaires, comme il l'a cité, ces boîtes d'intérim, qui en fait ne font rien pour créer de l'emploi, qui en fait profitent de l'emploi et qui font du proxénétisme. Et donc l'État, tout d'un coup, favorise ça, alors que la loi est simple, c'est que chaque employeur doit faire un contrat d'emploi à ses employés. Donc il y a une espèce de double mesure, on ne comprend plus rien. Mm-hmm. Mais je crois que c'est surtout, c'est en effet une méconnaissance de la culture, de ce que c'est.
Enfin, grand chantier. Donc pour les artistes, en 2014, les lois fondamentales de la stupidité humaine, c'est au martyr jusqu'au 5 janvier. Mais nous apprenons à l'instant que c'est complet, c'est ça, Emmanuel.
C'est complet.
Voilà.
C'est complet.
Ne venez pas.
Ben, venez et forcez la porte
à la télévision, à la radio, de
asseyez-vous
dire,
sur.
Ne venez pas.
Mais ce sera repris l'année prochaine.
Sur
vous pouvez toujours. Ça, essayez d'être dans la liste d'attente. Mais très bientôt, au Riche Clair, se joue Aura Popularis, qui est aussi un spectacle qui parle de la crise, que j'ai monté l'année passée et qu'on va jouer dans le théâtre d'Éric de Starck, à savoir les Riche Clair, du 7 au 15 janvier. Là, il reste encore. Du 7 au 15 janvier. Là, il reste encore des places. C'est un super spectacle, donc vous pouvez venir.
C'est une mise en scène d'Emmanuel de Koenig avec un texte de Dominique Breda.
Et des chorégraphies de Bérangère Bodin.
Et sinon, si vraiment vous cherchez un.
Il ne s'arrête plus, hein. Allez-y, Éric.
Tout feu, tout femme, c'est un spectacle sur les sorcières. Qui est très drôle et qui se joue au Riche Clair jusqu'au 4 janvier.
Voilà, donc sur le site des Riche Clair, vous serez au courant de l'activité de nos invités. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous sur la première.
Merci, merci.
Avec grand plaisir.